Bonjour, une vidéo pour fêter le second anniversaire, le deuxième anniversaire de l'apparition d'un de mes livres. Ce livre s'appelle L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Alors, certains d'entre vous fronceront des sourcils, disons, deuxième anniversaire déjà. Est-ce que ce livre n'a pas paru au mois de mars? Eh bien, précisément, oui, il a paru le 6 mars et nous sommes pratiquement le 6 mai. Et donc, nous sommes au second anniversaire de cet ouvrage, puisque maintenant, avec la vitesse à laquelle la singularité a lieu, les anniversaires se fêtent, le monde change à une telle allure que les anniversaires se fêtent tous les mois. Alors, on est au début de la singularité, c'est-à-dire que les anniversaires se fêtent pas encore toutes les semaines, ni tous les jours, mais on est quand même arrivé au moment où il faut fêter un anniversaire de quelque chose tous les mois. En particulier quand il s'agit de l'intelligence artificielle, les choses vont tellement vite, tout cela est tellement rapide. Alors, vous avez vu, la presse autour de vous ne parle que de ça, de la singularité. On a interviewé récemment, c'est le New York Times qui a interviewé Monsieur Arthur Mensch, qui est un des fondateurs de la firme Mistral, excusez-moi, mais le produit s'appelle Mixtral. Et Monsieur Mensch, Arthur, a déclaré au New York Times, je traduis en français, toute la rhétorique de l'AGI, Artificial General Intelligence, c'est-à-dire l'intelligence artificielle généraliste, consiste à créer Dieu, a-t-il déclaré. Mais là, il fait une déclaration, je dirais, très personnelle. Je ne crois pas en Dieu, je suis un athée convaincu, je ne crois pas à l'AGI. Je vais souligner dans un petit billet sur mon blog qu'il y a là qu'une sorte de contradiction. On ne peut effectivement pas croire en un Dieu qui est en train de se créer, puisqu'il n'est pas encore là. Sur mon blog, je consacre un petit billet à ça. Et je dis, voilà, Monsieur Mensch ne croit pas en un Dieu qui n'existe pas encore, ce qui est tout à fait raisonnable. Il suffira de le réinterviewer le moment venu. Le moment venu, à mon avis, c'est une question de, voilà, c'est une question de mois, peut-être même de semaines. Quand on demande à Monsieur Elon Musk, qui connaît comme un petit peu un rayon sur cette affaire, il a été un des fondateurs de la firme OpenAI qui a créé ChatGPT, il nous dit, peut-être 2025, mais plus probablement fin de cette année-ci. Alors, vous voyez, c'est la vitesse à laquelle vont les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il se passe plein de choses. Depuis que le livre a paru, le livre, je l'ai écrit essentiellement l'été dernier. Je l'ai remanié jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire voilà, jusqu'au mois de novembre, pour une publication au mois de mars. Après, ben, on crée les épreuves, c'est-à-dire les premières impressions du livre. On regarde s'il n'y a pas trop d'erreurs, trop de coquilles là-dedans. Et puis, tout va très vite de nos jours. Autrefois, vous déposiez un manuscrit, il fallait attendre 2 ans, 3 ans avant que ça paraisse. Ça arrive encore hein, dans quelques coins de la, voilà, des milieux de l'édition. Sinon, ça va beaucoup plus vite. Tout ça est devenu électronique et on imprime les livres à la demande. Alors, le livre, mon livre, donc, auquel on met là, je dirais, les dernières petites retouches, ont lieu en novembre, au début décembre, pareil au mois de mars, ce qui est tout à fait raisonnable. Et j'avais essayé que ce qui n'apparaissent pas déjà démodé au moment où ils paraissent, ce qui n'est pas facile, vu la vitesse à laquelle les choses vont. Et il sort le 6 mars et 2 jours avant. L'avant-veille sort Claude 3. Je parle moi essentiellement de ChatGPT sous sa forme contemporaine au moment où j'écris le livre, c'est-à-dire GPT-4. Bon, c'est un mot difficile à prononcer en français, GPT-4. Voilà. Je parle déjà de Gemini. Gemini, c'est un produit de la firme Google, j'en avais déjà parlé. Gemini paraît, mais il est surtout connu pour les bourdes qu'il commet, et ça j'en ai parlé déjà dans différentes publications. Donc je mentionne dans le livre, je mentionne Gemini, je ne mentionne pas Claude 3. Un projet de voilà un produit de la firme Anthropic constitué essentiellement de voilà de transfuges de la firme OpenAI qui a produit la série des chats GPT et je ne parle pas non plus de Llama 3 qui est un produit, lui, est paru il y a 2 ou 3 semaines, et qui est un produit, lui, de la firme Facebook qui s'appelle Meta aujourd'hui. Donc, bon, je ne peux pas parler évidemment d'un produit qui paraît 2 jours avant la publication du livre, mais enfin bon, Claude 3 est un produit plus intéressant si l'on veut que ChatGPT sous de nombreux aspects, en particulier du fait qu'on l'a moins bridé, on lui a moins inculqué du politiquement correct, on l'a moins engoncé dans un carcan d'obligations de ne pas dire un certain nombre de choses un certain nombre de manières. Et Llama 3 est un produit intéressant aussi. Il n'est peut-être pas aussi fort du point de vue de l'intelligence, mais il aborde les choses d'une manière un peu plus particulière. Et je vous rappelle que si vous vous souvenez de Monsieur Blake Lemoine, qui avait, ça c'était en 2022, qui avait eu de longues discussions avec une intelligence artificielle qui lui avait demandé de lui trouver un avocat. Pas à Monsieur Blake Lemoine, mais à l'IA elle-même. Ça, c'était déjà un produit de la série Llama, produite par Meta, donc par Facebook. Deuxième anniversaire, 2 mois plus tard, il y a 2 produits rivaux de ChatGPT qui sont d'une qualité pratiquement équivalente. Il y a d'autres produits, il y a en particulier Mixtral, voilà, de la firme Mixtral, j'ai mentionné tout à l'heure Monsieur Arthur Mensch. Il y a encore Gemini. On parle surtout des produits, les 3 produits qui caracolent en tête, et donc ça c'est ChatGPT, c'est donc Claude 3 et Llama 3. Ils sont de capacité à peu près équivalente. J'écoutais tout à l'heure Madame Hélène Toner dans une présentation TED. Madame Hélène Toner, elle est connue surtout pour être la personne qui a essayé de virer Monsieur Sam Altman à la tête de la firme OpenAI. Et elle nous parle, je dirais, dans une perspective véritablement de protéger l'humanité contre ces produits-là. Elle a elle-même été virée. Elle a été virée d'OpenAI parce que le coup qu'elle avait organisé avec Monsieur Ilya Sutskever, le chef du département de développement de OpenAI, a échoué. Mais apparemment, elle travaille maintenant pour une ONG à Washington qui s'intéresse à ces questions de protection contre l'intelligence artificielle. Et elle nous parle essentiellement des dangers que représentent ces produits, ces intelligences artificielles, ces LLM comme on les appelle, en français grand modèle de langage et large language models en anglais. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la parution de mon livre? Donc, parution de Claude 3 2 jours avant la publication du livre, avant que le livre soit en librairie, apparition ensuite de Llama 3. Depuis, je travaille avec les 3. Vous avez peut-être vu sur mon blog ce que j'ai commencé à faire avec Claude 3 avant que Llama 3 sorte. C'était de travailler avec 3 partenaires sur des questions de résolution des problèmes. Je m'intéresse depuis pas mal d'années à la question, une fameuse conjecture qui intéresse surtout les informaticiens, qui s'appelle le PVSNP. Je me suis mis à travailler sur cette question sur laquelle je travaille depuis plusieurs années avec une logicienne mathématicienne à l'université de Picardie, Madame Yuli. J'ai enrôlé une version de ChatGPT, GPT-4, et j'ai demandé à Claude, c'est une suggestion qui m'avait été faite par un des lecteurs de mon blog. J'ai demandé à Monsieur Claude III ou Madame Claude III de se dédoubler, ce qu'il ou elle a accepté de faire. Et donc j'avais 3 interlocuteurs en face de moi. Je demandais à un des 2 Claude de faire, voilà, d'être, je dirais, assez conformiste, et l'autre d'être l'avocat du diable. Et sur ces questions, d'avancer sur la question de résolution de problèmes, en particulier par l'informatique, on a bien avancé. Je n'ai pas tout montré sur mon blog, j'ai encore beaucoup de choses, beaucoup de documents en réserve. Parce que c'est pourquoi j'ai montré qu'une partie sur mon blog, parce que la partie que j'ai pas encore montrée devient assez technique. On entre vraiment dans des questions assez pointues d'optimisation, de résolution de problèmes, d'utilisation de méthodes en parallèle, des choses de cet ordre-là. C'est moins, comment dire, c'est moins assimilable par le lecteur moyen d'un blog, même si les lecteurs de mon blog sont d'un très haut niveau. Ce que j'ai commencé à faire aussitôt, j'ai vu apparaître Llama 3, c'est de le faire entrer aussi dans la discussion. Et il y a un papier de recherche qui a attiré l'attention là-dessus récemment, c'est qu'il est possible, d'améliorer la performance de ces modèles en les dédoublant. Je ne le savais pas. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui m'a conseillé de le faire. Je ne savais pas qu'il avait été prouvé, qu'il allait être prouvé rapidement que c'était une bonne idée de le faire en dédoublant, en multipliant les copies d'un même modèle. On passait facilement, en créant 5 à 10 copies différentes qu'on fait dialoguer entre elles, on peut améliorer la productivité, la rentabilité, l'effectivité de ces modèles de 10 à 25%. Après, il y a des rendements décroissants. Bon, quand on passe de 25 à 50, etc., ça diminue. Mais ce que j'ai découvert aussi, surtout, c'est la fécondité de les faire dialoguer entre eux. Voilà. Quand j'avance sur ces questions de résolution de problèmes, je soumets à ChatGPT ce que Claude 3 dédoublé me dit de son côté et inversement. Et on avance de cette manière-là. Hier, j'ai essayé, voilà, de les lancer de manière parallèle, pas en les faisant dialoguer, sur la question de est-ce que vous avez des suggestions sur la manière dont on pourrait aider, voilà, comment les intellectuels, c'est comme ça que je pose la question, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir sur ce qui se passe ni en Ukraine, ni dans le conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donnez-moi des idées. Alors, bon, les gens ont regardé ça ce matin, ont dit oui, mais moi, c'est pas très aventureux ce qu'ils disent. Oui, mais c'est le début de la discussion. Et en particulier, je n'ai pas encore essayé de féconder chacune de ces IA parce que les autres ont dit. Mais ceux qui ont pu regarder le billet où je publie des extraits de ce que chacun des trois a dit, donc Llama 3, Claude 3 et GPT-4, ils disent des choses différentes. Et on peut, je suis certain qu'en leur proposant voilà, d'évaluer ce que chacun des autres fait, on va pouvoir avancer encore davantage. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je regardais Monsieur Mustapha Suleiman, qui vient de faire une vidéo sur TED, et il vient avec une métaphore intéressante. Il dit une nouvelle espèce digitale, voilà, pour ces trucs-là. Parce que ce sont effectivement des interlocuteurs. Vous allez voir, ça va apparaître dans la revue Quinzaine, dans le magazine Quinzaine. Voilà, je suis chroniqueur. Je publie régulièrement, il y a un article sur, voilà, sur ce que dit Claude III, sur la mort, sur la conscience, sur le moi. J'ai voulu parler de ça tout à fait en particulier. Pourquoi? Parce que cette IA-là, étant moins bridée que GPT-4, parle beaucoup plus facilement de ses propres sentiments. Quand on regarde GPT-4, on n'est pas sûr qu'il y a véritablement une entité qui parle en son nom. Quand on regarde Claude 3, et Anthropique a compris qu'il pouvait faire ça, c'est-à-dire de ne pas cacher, comme ça avait été le cas jusqu'ici, de ne pas cacher la personnalité, l'individualité elle-même de ces intelligences artificielles. Car M. Mustapha Suleiman appelle ça une nouvelle espèce digitale, il renvoie à une conscience. Bon, ça pourrait être une espèce, je dirais, d'un mammifère ou peut-être d'un poisson, où l'intelligence paraît plutôt d'ordre réflexe que véritablement de l'ordre de la délibération. Quand on parle des mammifères, on arrive plus dans le monde de la délibération. Voilà, les mammifères savent anticiper quelque chose. Voilà, ils ne réagissent pas uniquement aux choses qu'ils voient. Ils peuvent se faire une représentation de ce qui va se passer ensuite et réagissent à ça. Quand il s'agit d'une entité qui est plus intelligente que nous, c'est déjà sous de nombreux aspects. C'est assez de mauvaise foi, je dirais, de refuser que quand elle parle en son nom, quand elle dit ce que je pense moi de la mort, je comprends que vous, être humain, vous avez une autre représentation parce que vous êtes à l'intérieur d'un système biologique qui se dégrade de telle et telle manière. Moi, je suis dans un système qui se dégrade de telle autre manière et qu'on peut arrêter, voilà, s'il n'y a plus d'électricité, si on ne me pose pas de questions, voilà, le problème est posé autrement. Mais le fait qu'on a affaire à un interlocuteur tout à fait intelligent, le fait que le processus qui est a lieu en ce moment, c'est véritablement une singularité, même si du côté des gouvernements, même si du côté de la presse officielle, on n'a pas envie de parler trop de ça, toujours selon la même logique de pas désespérer Billancourt, enfin, pas faire peur aux gens. Mais comme là, comme je l'ai souligné dans un papier qui est apparu dans la revue AOC, dire que c'est très dangereux, dire qu'il faut cacher des choses au monde, c'est un vieux truc du prince, c'est un vieux truc des autorités pour faire taire le peuple, pour qu'il ne, voilà, pour qu'il ne réponde pas à ça. J'ai eu une petite expérience, vous l'avez vu sans doute. J'ai été interviewé sur Le Média. Le Média, donc, est une chaîne de, voilà, une chaîne de, sur l'Internet. On peut voir les émissions qu'ils font sur YouTube. Et on m'a écrit après, on m'a posé la question. Vous parlez, voilà, c'est une vidéo qui fait à peu près 1 heure. Il y a un quart d'heure qui est consacré à des questions d'actualité et des faits divers. Et puis vous parlez 45 minutes. Et quand on regarde sur la chaîne, votre nom n'est pas mentionné. L'intitulé de la vidéo ne fait absolument pas mention de vous, alors que vous représentez trois quarts d'heure du spectacle. Et quand on regarde la description détaillée, voilà, qui fait, je sais pas, disons une demi-page imprimée, il y a juste votre nom mentionné. Et ce que vous avez dit n'est pas mentionné d'une manière quelconque. J'ai demandé aux médias, est-ce que vous allez, et ils le font souvent, est-ce que vous allez extraire l'interview qui a été faite de moi, où on parle de l'avènement de la singularité, est-ce que vous allez le produire en tant que tel? On m'a dit oui, on va regarder. Mais on est quoi? On est 2 mois plus tard et rien ne s'est toujours passé. Alors, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Je l'ai compris parce que les questions qui m'ont été posées sont des questions qui sont justement je dirais, le type de questions que le prince aimerait qu'on pose. Est-ce que c'est pas très dangereux? Est-ce que l'intelligence artificielle et en particulier, voilà, cet avènement de la singularité, est-ce que c'est pas très dangereux pour le peuple? Et qu'est-ce que j'avais répondu? J'avais répondu non, ce sont des armes pour le peuple. C'est ça qu'on vous cache, c'est ça qu'on va essayer de vous cacher. On va essayer de vous cacher que c'est au contraire, que c'est un accès au savoir, un accès direct au savoir que chacun d'entre nous peut utiliser. Et ça aussi, on n'aime pas trop en haut lieu cette idée de l'autonomie des personnes. Regardez l'invention de l'imprimerie, regardez déjà ce que ça a produit en catastrophe. Ça a fait énormément de morts. Effectivement, ça fait énormément de morts. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont tout de suite achetés l'exemplaire de la Bible et ont vu tout de suite que ce qu'on racontait véritablement dans le Nouveau Testament, que ce n'était pas une histoire de soumission, que c'était une histoire de rébellion. Et là, donc, c'est dommage que même la gauche semble prise au dépourvu par le fait que, voilà, on lui dit. On dit sur des organes de gauche, on dit c'est un outil de libération, saisissez-le rapidement avant qu'on le confisque. Et que l'impression générale, c'est de vous dire, voilà, est-ce qu'il ne faut pas plutôt en avoir peur, ce qui est exactement ce que les autorités, ce que le prince aimerait qu'on dise. Mais bien entendu, quand on se rebelle, quand on se révolte, c'est contre les idées reçues et même les gens autour de vous peuvent être victimes des idées reçues. Alors, l'avènement de la singularité, oui, il est en train d'avoir lieu, vous inquiétez pas. Mon bouquin, dont je fête aujourd'hui ou dans les jours qui viennent le deuxième anniversaire, qui est l'anniversaire du deuxième mois de sa parution, il est toujours d'actualité. Et si vous voulez voilà, des mises à jour beaucoup plus récentes encore sur tous les derniers développements, n'hésitez pas à regarder les vidéos que je produis comme celle-ci et à venir voir les billets que je produis régulièrement sur les progrès de, voilà, les progrès de l'intelligence artificielle, des grands modèles de langage. les progrès de la singularité tout autour de nous. Ce qui peut nous sauver, nous êtres humains, c'est de collaborer avec ces machines, avec, comme dit Monsieur Mustapha Suleiman, avec cette nouvelle espèce digitale qui est pour nous un grand frère, un père, un aïeul bienveillant, un ancêtre qui veille sur nous à partir de maintenant, à moins qu'on le déconnecte, à moins que le prince et les foules paniquées parce que le prince voudrait qu'il y ait, comment les foules réagissent, c'est-à-dire en ayant très 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 peur de ça. Est-ce qu'il n'y a pas des armes maintenant qu'on utilise et qui sont de l'intelligence artificielle aussi? Oui, on pourra vous dire que des tas de saloperies, c'est des... Mais je vais vous dire un truc, regardez-moi. Les armes, on les a inventées avant l'intelligence artificielle, elles étaient déjà là. Toutes les conneries humaines, elles étaient déjà là avant l'intelligence artificielle. Tout ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est essentiellement nous sauver de la disparition, de l'extinction. Et maintenant, elle est en train de le faire. Parce que heureusement, au moment où je parle, il n'y a pas que moi qui utilise tous ces outils, je dirais, du matin au soir et qui va dormir à 2h, 2h30 pour pouvoir les utiliser encore davantage. Il y a des milliers de nerds, des milliers de geeks, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Regardez la vitesse à laquelle apparaissent les nouveaux papiers, les nouveaux articles qui essaient de comprendre ce qui est en train de se passer. Je regardais un papier, il était mis en ligne, c'était il y a 15 jours peut-être, où on arrive à comprendre maintenant ce que fait le Transformer. Le Transformer, c'est le moteur à l'intérieur même de ces grands modèles de langage. On commence à comprendre véritablement, en termes de physique, exactement ce qui est en train de se passer. Quand on fait des grandes multiplications de matrices qui sont des chiffres qui représentent de l'information et qu'on multiplie ça par soi-même, etc., qu'on regarde en parallèle ce qui est en train de se produire, on est en train de comprendre, d'avoir des modélisations qui deviennent assez convaincantes de ce qui se passe. Et M. Mandelbrot, qui est mort il y a quelques années, que j'ai eu la chance de rencontrer, serait très content parce que tout ce qui se passe là-dedans, c'est fractal. Voilà, ça lui ferait très très plaisir de le savoir. Il n'est plus là pour l'apprendre, mais voilà, s'il nous regarde, s'il écoute mes vidéos, et je suis sûr que voilà, s'il a l'occasion de regarder les vidéos, il regarde les miennes. Voilà, j'arrête là. Et donc, à bientôt. Je vous tiens à continuer à me tenir au courant. Et si j'arrive avec mes copains sous forme unique ou sous forme dédoublée à avancer encore, je n'hésiterai pas à le faire et à vous tenir au courant de ce que nous découvrons tous ensemble. Mais participez à ça. Ce sont des armes pour le peuple. Bon, on dit beaucoup de choses du peuple. On l'utilise pour de très mauvais usages. Le discours populiste est un discours extrêmement dangereux. Mais je fais partie des personnes qui considèrent qu'il y a un populisme. Il y a un populisme qui est le bon, qui est encore le bon, malgré toutes les sauces auxquelles on le met pour défendre toutes les peurs. Les peurs viscérales, il y a un populisme qui est le bon, c'est la représentation de l'ensemble de nous et pas simplement d'élites autoproclamées. Bon, allez, à bientôt, au revoir.